Bonjour et bienvenue à Actu Trek. Comme vous pouvez l'entendre, eh bien, on s'est déplacé à San Diego. Et oui. Et je suis Matou et je suis ici avec Minos. Bonjour Minos.
Bonjour Matou.
Bonjour et comme vous l'entendez, nous sommes actuellement sur la plage de San Diego. Rémi n'est pas là. Rémi est allé visiter le musée sur le porte-avions qui est amarré dans la baie de San Diego, l'USS Midway, qui possède un musée, donc il nous a laissé. Donc là, vous ne voyez pas, mais Minos a sa belle serviette de plage Star Trek. Quant à moi, j'ai coupe pizza et la pizza à côté, parce qu'on va manger sur la plage. Nos enfants sont en train de faire des cubes Borg avec le sable. Et je porte un peignoir doré, TOS. Voilà. Oui, on fait du placement produit, parce qu'il a bien fallu qu'on se fasse financer notre voyage à San Diego. Voilà. San Diego, une Comic-Con qui a été placée sous le signe des comics, sous le signe de Marvel avec les séries, mais aussi sous le signe de Star Trek. Et nous allons éplucher avec Minos et un invité mystère qui va nous rejoindre sur la plage toutes les informations que nous avons eues sur Star Trek. Petite information pour ceux qui voudraient faire le voyage, cette année il y avait plus de 15 panels à propos de Star Trek, pas forcément avec des gens très très connus. Il y en avait sur l'utopie trekkienne, il y en avait sur la science, il y en avait aussi avec le réalisateur du premier pilote. Mais pour les fans de Star Trek, venir à San Diego, c'est la certitude d'avoir plein de choses à voir, très intéressantes. Sur ce jingle. Et maintenant, le sommaire de cette émission. Minos, ça va toujours ?
Impeccable.
Ah, pas trop pris de coups de soleil ?
Pas encore, mais ça va pas tarder à venir.
D'accord. Oui, parce que pour un Breton, vous savez, être sous ce soleil, faut faire attention. Et donc, comme promis, voici le sommaire. Avec, dans un premier temps, une actu, une réaction. Nous serons avec notre invité que je vois arriver au loin. Ensuite, les informations sur les séries animées là, de Star Trek qui ont été annoncées. Et un gros, gros point Picard. Et vous aurez bien compris qu'on ne pouvait pas faire un point Picard sans celui qui l'a inventé, celui qui l'a fait vivre depuis tant de mois. Et donc, le voici enfin arrivé à notre hauteur. Je lui sers un cocktail. Voici Guigui le Gentil. Et bienvenue Guigui. Merci d'être venu sur la plage avec nous. Tiens, là ton cocktail.
Ah, merci. Alors, j'espère qu'il y a la Mirabelle.
Ah, bah, bien sûr.
Ah oui, il est bon. Merci les gars.
Et ouais. Donc, ça s'est bien passé Je crois que tu avais un panel zone 51
Zone 57
Zone 57, excuse-moi.
Ouais, j'ai eu un petit panel tranquille, surtout dans mes rêves en fait et dans mes fantasmes. J'ai annoncé carrément l'adaptation live en film, donc j'ai annoncé le casting.
Ah, vas-y, je t'écoute.
En personnage principal, pour jouer Bertrand Cœur-Thorian, je prendrai Raphaël Descraques. Ça sera réalisé par Alexandre Aja, bien sûr, et il y aura Loïs Bourgoin dans le rôle de Nina, donc ça va être bien, je pense.
Ah oui, en plus, plus ce sont des amis, donc ils sont venus à pas cher.
Exactement.
Voilà. Bon, ben on va pouvoir passer. Alors, moi, je vous propose, pour rythmer tout ça, c'est que à chaque changement de rubrique, ben, on trinque.
Allez.
Ouais. Ben donc, trinquons, hein, pour lancer une actu, une réaction. Allez, trinquons.
Alors, en ce qui concerne les actus, je vous propose de commencer par du film. Le film Star Trek 79 avait vu une version Director's Cut parue en 2001. Et lors de la convention de San Diego, pour les 40 ans du film, on nous annonce qu'il pourrait y avoir le Blu-ray de cette version qui sortirait dans les prochains mois.
Moi, je suis curieux de voir ça.
Tant que ce n'est pas la version longue, ça me va.
Elle était bien cette version longue.
Ah, moi j'aime bien la version longue, c'est pour ça que je suis curieux de l'avoir en restauré.
Ah, pareil.
Alors, en production, on a reparlé, on parle depuis des mois d'une fusion à nouveau entre CBS et Viacom. CBS qui possède les droits sur les séries Star Trek et Viacom via Paramount qui possède les droits sur les films Star Trek. Et ce, depuis 2005. Là, on nous annonce que, décidément, cette fusion, ce serpent de mer va enfin arriver. Et apparemment, l'annonce officielle sera faite le 8 août prochain. et c'est CBS qui sera aux commandes entre les deux. Sachant que justement CBS a créé une division spécifique dédiée à Star Trek en son sein. Donc voilà, CBS chapeautera le tout. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars, de cette fusion et des droits qui vont être à nouveau réunis ?
Ah, c'est pas trop tôt.
Moi, je dirais indispensable.
En casting et production, il y a plein de monde, il y a plein de choses. Ethan Peck rejoint la série, le casting de la série Penny Dreadful, City of Angels, dans laquelle jouera aussi Brent Spiner. Je ne sais pas si vous aviez vu la première série Penny Dreadful.
Si, c'est assez décevant d'ailleurs, même s'il y avait des belles promesses.
Moi aussi, je l'ai vu et je te rejoins, Guigui, là-dessus. Mais je reste impatient de voir ça.
J'avais trouvé la série assez lente aussi. Sinon, Rosaline Chao, qui jouait Kaiko Ishikawa O'Brien, va jouer l'année prochaine dans le film live de Mulan, qui sort en mars. J'ai oublié de noter le rôle qu'elle tient, et j'avoue que, n'ayant jamais vu Mulan, je ne sais pas si elle aura un rôle important, mais le fait qu'elle ait été citée, je pense que ça n'est pas à noter.
Oui, ben, moi je trouve, c'est quand même énorme, je trouve, ce film, donc ça a l'air d'être bien parti. Et toi, Guigui ?
C'est vrai que moi, le film Mulan, c'est pareil, je ne l'ai jamais vu, ça ne m'intéresse pas vraiment, en fait.
Moi, je sais que c'est un film très attendu en Chine, même s'il est fait par des Américains, donc c'est grosse production, il y a beaucoup d'enjeux, je dirais. Et au passage, pour vous avez entendu, comme on l'a dit, hein, sur la plage. Donc, et oui, vous avez les enfants de Minos qui sont en train de jouer avec lui. Là, il est parti faire.
Ils font quelques... des pâtés de sable.
Voilà, exactement. Hein, on vous l'avait dit, hein, qu'on était sur belle plage de sable à San Diego.
Alors, George Takei à la convention a tenu un panel sur The Cold Us Enemy. C'est un roman graphique qu'il a coécrit, qui fait 192 pages, et c'est autobiographique. Il raconte qu'à l'âge de 4 ans, il s'est retrouvé enfermé dans un camp de concentration aux États-Unis durant la Seconde Guerre mondiale, comme 100 000 autres Américains d'origine japonaise. Je ne savais même pas qu'il y avait eu des camps de concentration aux États-Unis, donc à ne pas confondre, bien sûr, avec les camps d'extermination. Donc je trouve ça, j'ai été assez sidéré de l'apprendre.
C'est un sacré écho à l'actualité de 2019, donc c'était une bonne idée de sortir ce roman-là maintenant. Quoi.
Notre Rémi National qui m'a montré certains passages, j'ai trouvé ça vraiment poignant. Donc, moi je dirais poignant.
Alors, par ailleurs, pour en finir avec les castings, il y a une série qui s'appelle The Boys qui va bientôt sortir. Ça concerne des super-héros qui utilisent leur pouvoir n'importe comment, et donc il va y avoir une unité spéciale de la CIA qui va les surveiller pour qu'ils ne partent pas trop dans tous les sens. On retrouve au casting Carl Urban, donc, qui jouait McCoy dans la Kelvin Timeline, Simon Pegg, Scotty, et...
Simon Pegg ne joue pas dedans.
Si, il a un rôle secondaire dedans.
Ah ouais, parce qu'en fait, il y a un des personnages principaux justement de l'histoire qui était inspiré graphiquement par l'acteur et il a refusé de reprendre le rôle de se jugeant trop vieux pour l'incarner.
Si, il a eu un...
Je ne savais pas qu'il avait pris un petit rôle secondaire, pardon.
Eh ben si, tadam. Du coup, ils sont trois parce qu'il y a un troisième acteur dont je parlerai tout à l'heure qui est Jack Quaid. C'est le fils de Dennis Quaid et de Meg Ryan. Il joue dedans et c'est lui qui tiendra le rôle titre dans Lower Decks dont je parlerai tout à l'heure.
Je dirais que c'est amusant de voir un tel casting avec les trois personnes réunies. Ça me donne bien envie d'y jeter un coup d'œil.
En même temps, à force de multiplier des contenus Trek depuis 50 ans, ça en fait du monde au niveau casting pour suivre.
Oui. Guigui, tu avais suivi la série Bad Robot avec Carl Urban ?
La série Bad Robot ? Quelle série Bad Robot ?
Il y avait une série Bad Robot avec Carl Urban qui avait joué.
Produite par Bad Robot, mais elle s'appelait comment cette série ?
Ah, j'ai un trou de mémoire là, mais ça me fait toujours bizarre de voir un acteur, tu sais, qui est au ciné et qui va dans des séries. Mais généralement,
maintenant, c'est devenu la mode, c'est devenu vraiment la norme hein, maintenant.
Je sais, mais Carl Urban quand même. Comme c'est un acteur tellement versatile qui joue dans des fois des séries B un peu de luxe comme Judge Dredd, des blockbusters, qui a fait Le Seigneur des Anneaux et tout, le trouver dans une série, je trouve toujours ça un peu surprenant, mais moi j'ai l'impression que ça dépend si le projet l'amuse, si il peut faire des choses un petit peu physiques et tout.
C'était pas Almost Human ?
Oui, c'était ça, je crois. Ouais.
C'est Rémi qui me l'a soufflé, hein. C'est pas moi qui savais.
Sacré Rémi. Et donc, comme je disais, c'est le voir dans une série télé, je trouve ça amusant et ça me donne bien envie de voir.
Moi, pareil.
Oui, on enchaîne. Je vous propose de passer en univers étendu avec un roman qui a été annoncé. Ce sera le 6e roman Discovery. Ça s'appelle Dead Endless et le héros sera Paul Stamets. Et dans ce roman, on nous reparlera des premiers essais du moteur Sporik. Ce livre est écrit par Dave Gallanter, qui a déjà 10 histoires Star Trek au compteur, et la sortie est prévue le 17 décembre. Il y avait déjà eu dans un comics, on voyait le passé de Stamets, quand il avait développé le moteur Sporik, avant d'entrer dans Starfleet, donc là on sera entre les deux. Bon, suivante, en autre livre, un livre qui va s'appeler Body by Star Trek, qui sort le 3 décembre prochain. Il est écrit par Rob Pierlman. C'est un livre de fitness. Ouais, un vrai, mais illustré exclusivement avec des personnages de Star Trek. Super, non ?
Ouais.
Moi, je dirais cadeau. Ce sera un bon cadeau pour Guigui, ça.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, pour finir en littérature, les sorties comics. Discovery Aftermath, donc conséquence. Le numéro 3 va sortir. Donc, c'est une histoire qui se déroule après la fin de la saison 2 de Discovery. Et dans ce numéro, Spock, Pike et Elrel, la chancelière Klingon, vont devoir s'unir pour combattre une menace galactique. Rien de moins. Sinon, Year 5. Le concept de Year 5. On a eu 3 saisons de TOS fin 60. Il y a eu une bande dessinée qui a été faite en 2009 qui s'appelait Year 4, qui était censée représenter la 4e saison de TOS. Et donc, depuis le début de l'année ou l'an dernier, je ne sais plus, il y a Year 5, donc la 5e et dernière année de la mission quinquennale, qui est sortie, qui est là, le 7e tome sort, avec les Toliens à l'honneur.
Oh, pourquoi pas?
Et pour finir avec les comics, un comics voyageur est annoncé, Mirrors and Smoke. Donc Mirror, oui, c'est encore l'univers miroir. On sort d'une série de TNG sur l'univers miroir, et là, c'en est la suite, sauf qu'on passe à l'équipage de Voyager. Et en l'occurrence, on a le capitaine Catherine Janeway qui décrète qu'elle devient la reine des pirates du quadrant Delta.
Ouais, moi, j'ai overdose.
Ah, moi, miam. J'ai toujours aimé les déclinaisons de l'univers miroir.
Alors, sinon, que dire ? Une info que j'ai appris hier, Axanar, le fan-film, le fameux fan-film qui a déchaîné tant de passion. A priori, le tournage aura lieu à la fin de l'année. Et il y aura un spin-off aussi, mais ça, on aura peut-être l'occasion d'en reparler ces prochains mois.
C'est cool, par contre.
Moi, pareil, je trouve ça sympathique et à soutenir.
Star Trek Online, passons aux jeux vidéo. Et il se passe un petit peu de choses. Il y a eu la sortie de deux nouveaux vaisseaux dans Rise of Discovery, l'Enterprise et le croiseur Klingon D7. Et à noter que Rise of Discovery, qui était jusqu'ici disponible uniquement sur PC, l'est désormais sur PS4 et sur Xbox One. Produits dérivés. Sachez qu'il y a un coffret de figurines Monsieur Spock qui va sortir, qui vaut $40 et qui est faite par Mego. Qui faisait déjà des figurines il y a 20-30 ans et qui donc là vient de s'y remettre. Un petit coffret avec sa tenue classique, sa tenue miroir, son uniforme de cérémonie et pour la première fois dans les produits dérivés, sa tenue des tout premiers épisodes de TOS. Allez, 2-3 autres infos, produits dérivés et j'en ai terminé. Chronicle Collectibles nous sort à Enterprise D. En alu, en fibre de verre, 60 cm, éclairé par des LED, et ça vaut $2000, tout ça vaut portefeuille. Petit public, un nouveau venu dans la franchise issu du site Trek Movie va nous faire des t-shirts. Et pour finir, Eagle Moss, il y a moins 10% sur toutes les productions au mois de juillet. Donc nous, on enregistre 28, voilà. Voyez, si ça vous intéresse, il va falloir bondir dessus.
Bon, ben merci Minos pour toutes ces infos. Et comme on dit, ben trinquons. Quentin Tarantino s'est exprimé sur son film Star Trek, qui a de grandes chances de se faire. Parce qu'actuellement, il sort un film Once Upon a Time in Hollywood, qui, une fois qu'il est sorti, il va pouvoir s'occuper pleinement de son projet Star Trek. Et comme c'était un podcast et que M. Tarantino parle très vite, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, donc c'est pas facile de démêler et tout. Mais quelques informations. Il a dit qu'il était un grand fan de la série originale, et surtout du jeu de William Shatner, qu'il a adoré dans le recast la manière dont Chris Pine a joué non pas un Captain Kirk, mais qui a joué le Captain Kirk version Shatner. Il a adoubé le recast. Il n'a pas tellement apprécié les manières dont Simon Pegg a parlé de son projet, en disant que de toute façon, il ne savait rien, et qu'il n'était pas du tout fan de cette histoire de ligne temporelle, parce qu'il a peur que ça puisse écraser... faire en sorte que toute la série originale n'ait pas eu lieu. Donc, pour lui, c'est quelque chose auquel il est un peu fétichistement attaché, je pense. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un scénario qui est sur la table, qui a été écrit par l'auteur du scénario de The Revenant, et que Tarantino est chaud patate pour le réaliser. Et il dit que ça serait, de toute façon, interdit, je crois, au moins de 17 ans, que ça serait donc un film à la Tarantino, et que pour lui, ça serait un Pulp Fiction dans l'espace. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Est-ce que vous étiez fan de Pulp Fiction? Est-ce que ce ton pourrait coller avec Star Trek? Qu'est-ce que c'est? Est-ce le projet qui vous émoustille? Ou bien est-ce que vous avez peur de quelqu'un qui amène ses grosses manières sur Star Trek, qui se fait plaisir, mais qui ne fait pas forcément plaisir à tout le monde?
Personnellement, ça me fait peur.
Alors, en ce qui me concerne, moi, je suis vraiment très très chaud. Déjà parce que je suis très fan du cinéaste depuis toujours, hein, depuis sa Palme d'Or à Cannes en 94, hein, donc ça ne nous rajeunit pas, ça fait déjà 25 ans. Alors je suis chaud pour plusieurs raisons. Déjà la première raison, qui est pour moi une évidence, c'est que c'est un grand cinéaste, dans le sens où c'est quelqu'un qui est très fort en storytelling, c'est quelqu'un qui sait tenir une caméra, qui sait faire du montage et surtout qui sait diriger des acteurs. Ce qui fait cruellement défaut au dernier film de Star Trek, hein, on ne va pas se le cacher, et qui, je pense, étant un très très grand fan de la série, classique, comme tu l'as dit, ben, va ramener une histoire qui sera sûrement plus intéressante. Alors évidemment, il va ramener sa propre patte à lui. Franchement, après les trois films qu'on a eu de Bad Robot, est-ce que c'est vraiment un tort? Moi, personnellement, je ne pense pas. Par contre, ce qui me déçoit un petit peu, c'est que ça sera avec le casting, justement, de la Kevin Timeline, dont il ne tarit pas d'éloges. Alors, peut-être que c'est simplement des déclarations un peu politiquement correctes par rapport à la production pour se mettre bien avec les gens avec qui il va travailler, évidemment. Parce que, bon, bah, moi, je trouve qu'ils sont bons, mais sans plus. Mais peut-être que, comme c'est un bon dirigeur, il sait bien diriger ses acteurs, peut-être qu'il en fera quelque chose de correct. Comme il adore William Shatner, et qu'il aimerait le faire intervenir, moi je le verrais très bien jouer le grand-père de James Kirk, c'est-à-dire Tiberius Kirk. Je pense que ça serait une bonne façon de le faire revenir l'acteur une ultime fois dans la saga. Donc moi je suis plutôt chaud d'avoir un épisode, parce que ça serait comme une sorte d'épisode décalé, je veux dire après 13 films, dont 3 qui sont plutôt bof, avoir un épisode qui soit décalé, interdit aux moins de 13 ans, fait par Tarantino, moi je dis pourquoi pas. Si c'est raté, bah c'est pas grave, ça restera une parenthèse dans la franchise, hein, qu'on oubliera ou pas. De toute façon, il y a assez de matière dans Star Trek, dans la saga, pour pouvoir être contenté. Donc moi je dis, ce genre d'initiative, il faut essayer. Donc moi je suis très très chaud.
Ben moi je suis comme toi, même si j'ai certaines réserves. Mais je pense que le premier film Star Trek, qui est un film qui un petit peu clivant, mais qui est un vrai film de Robert Wise, je me dis qu'il serait peut-être temps, en effet, comme tu le dis, d'avoir un auteur. Alors on aime son style ou on n'aime pas son style, mais que d'avoir un vrai auteur qui nous propose quelque chose. Je suis absolument d'accord avec tout ce que tu as dit, Guy. Essayons, regardons. Et comme je l'ai vu passer sur un forum, sur Ultime Frontières, si on avait une histoire comme dans Pulp Fiction, c'est-à-dire avec la chronologie qui est un petit peu mélangée.
Éclatée, ouais.
Éclatée de la sorte. Moi, je trouverais ça, mais alors absolument génial, de ne pas avoir une histoire linéaire racontée dans Star Trek. Ça pourrait très, très bien coller. Alors, c'est peut-être un fantasme de ma part, j'en sais rien. Mais voilà.
Après, sachant que c'est pas le seul artifice, enfin, la seule méthode narrative qu'il a dans sa besace, hein, il en a beaucoup d'autres, c'est-à-dire de faire des choses qui sont des mêmes scènes vues par plusieurs personnages, des points de vue différents. Enfin, il peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et il osera le faire, je pense. Et c'est ça qui effectivement sera intéressant, je pense.
Absolument. Alors, pour moi, les déclarations qu'il a eues vis-à-vis de Chris Pine, il faut se rappeler, et Minos a fait un très bon article sur Feu, l'épisode, enfin le quatrième film qui devait être fait par Bad Robot. D'ailleurs, il n'est pas sûr que ça soit Bad Robot à la production, parce qu'actuellement, J.J. Abrams essaye de signer un gros deal avec des maisons de production, et il n'y aurait pas lui forcément Paramount, CBS dedans. Donc, ça serait peut-être
Et là,
un
il
nouveau
va vers
film.
la Warner, hein, d'après les dernières rumeurs.
Oui, d'après les
Donc,
rumeurs. Donc la Warner, je ne pense pas qu'il lui laisse forcément aller faire d'autres films à
exactement.
côté. Donc tout ça pour dire que ça serait peut-être un film qui serait donc post-Bad Robot. Enfin, bon, ça c'est dit rapidement. Donc, mais on sait que Tarantino a discuté avec Abrams, parce qu'à une époque, il était censé, Abrams, produire le film. Enfin bon. Toujours est-il que je pense que Chris Pine avait un contrat et que Paramount ne voulait pas mettre autant d'argent que dans le précédent film. Donc Chris Pine et Chris Hemsworth avaient dit qu'ils ne viendraient pas pour ces conditions salariales. Mais est-ce que le fait qu'il y ait Tarantino va pas augmenter le budget du film? Et surtout, est-ce que Chris Pine, d'être dirigé par Tarantino dans un film de Tarantino, est-ce qu'au contraire, il ne serait pas capable de revoir ses émoluments à la baisse? Donc
Ah,
moi,
même Chris Hemsworth, hein.
Je suis très confiant pour qu'il arrive à prendre ce cast. Et comme toi, je suis sûr qu'il saura en faire quelque chose qui peut donner vraiment quelque chose de très très bon au niveau du jeu d'acteur.
Et je pense que ça va être essentiel.
Et sinon, Samuel Jackson, tu le vois dans quel rôle, toi, Guigui?
Bon, un Klingon, évidemment.
Voilà, je pense que on est beaucoup
Plein,
à lui.
motherfucker.
Exactement, c'est ça, j'allais le dire. Enfin voilà. Donc, Minos, on trinque même si t'as peur.
Allez, trinquons, je suis circonspect.
Quelques petites informations du Comic-Con qui ne sont pas sur Star Trek, mais qui, je pense, intéresseront ceux qui nous écoutent. D'abord sur Terminator, on a eu la confirmation du retour de John Connor, joué par Edward Furlong, qu'il avait joué dans le film de 92. Ce qui nous renvoie, nous, amateurs de Star Trek, aux années 90, qui étaient des années fastes pour Star Trek. Et j'en parle aussi parce que, de toute façon, Discovery nous a ramené Skynet dans Star Trek. Donc, quelque part, on a un bout de Terminator maintenant dans notre franchise. Et deuxième info, on a appris que The Orville, la série faite par un grand, grand fan de Star Trek, qui est Seth MacFarlane, avec des anciens auteurs de Star Trek, du temps de Rick Berman, va donc être diffusé sur Hulu à l'automne 2020. Alors, beaucoup se sont posé des questions. Je vais juste faire une petite information rapide. La série The Orville était diffusée sur une chaîne hertzienne, la Fox, qui était et sur la plateforme de SVOD de la Fox qui s'appelait Hulu, et elle était produite par le studio de production de séries télé de la Fox. Depuis, Disney est passé par là. Disney a racheté la Fox, mais pour des histoires de concurrence, parce que Disney possède déjà une chaîne de hertzienne, ils n'ont pas pu racheter la chaîne hertzienne Fox.
ABC.
Donc, Disney ayant racheté le studio de production de séries télé et le service de vidéo à la demande Hulu, Disney a tout simplement décidé que The Orville allait être mis sur Hulu pour favoriser un de ses services de SVOD, plutôt que de l'envoyer sur une chaîne hertzienne qui appartient à un autre groupe. Voilà ce
A du
qu'on peut
sens.
dire. Oui, tu disais?
Je disais, pour moi, ça a du sens puisque, effectivement, le but de Disney, c'est de favoriser ses services SVOD parce qu'il y aura Disney Plus qui va arriver l'année prochaine et Hulu, donc, qui est issu de la Fox. Et ce sont deux services de SVOD qui ont des, comment dire,
Complémentaire.
donc des objectifs différents. Donc Disney Plus qui est plus familial et puis Hulu qui sera un peu plus adulte, mature, avec un peu plus bon, bah, des trucs de la Fox, genre Alien par exemple. On a du mal à imaginer de voir la saga Alien sur Disney Plus. Et donc du coup, il y aura donc ces deux caractères différents de ces deux services qui seront ensuite vendus avec des offres complémentaires. C'est-à-dire que si tu as les deux, bah, ça te coûtera moins cher d'avoir Disney Plus si tu as Hulu et vice-versa que si tu n'as que l'un ou l'autre, quoi.
D'accord, je pense
Donc,
que je.
ça me semble complètement sensé de la part de Disney de faire un truc pareil.
Voilà. Et beaucoup pensent que c'est quelque chose qui est problématique pour The Orville. Pas forcément. Moi, je pense qu'au contraire, ça montre que The Orville ne va pas être mis au rabais pour sa saison 3.
Oui, alors déjà ça, effectivement, ça veut quand même dire quelque part qu'ils comptent là-dessus pour attirer du monde sur le service. Ça veut quand même dire qu'il y a une fanbase qui est assez solide et que Disney juge qu'effectivement, cette série-là survivra le fait de passer de la chaîne de la Fox à son service de SVOD et que ça, en plus de ça pourrait lui amener du monde. Donc je pense que c'est plutôt un bon indicateur quant à la bonne santé de cette série.
Et dernière petite info, nous avons le film racontant la production de la série DS9, What We Left Behind, qui a eu droit à un panel pendant la Comic-Con. Et le 6 août va sortir le DVD. Alors, en petit nombre d'exemplaires, peut-être qu'ils vont ressortir selon la demande. Mais voilà, pour tous les amateurs de DS9, et dont Rémi, mais je sais qu'il y en a beaucoup, voici à mon avis un documentaire très intéressant sur cette série, pour pratiquement
Carrément.
les 20 ans de la fin de la diffusion de cette série. Voilà, mais moi j'ai fini pour mes infos un petit peu hors sujet. Donc on peut trinquer et Minos va nous parler des infos Star Trek de la Comic-Con.
Hier, Matt. Oui, c'est des Bretons. Alors, dans, les infos de San Diego à la convention. On a d'abord, par quoi je commence? Je commence par Discovery. Donc on a appris que David Ajala rejoint le casting pour la saison 3. Il a joué dans la série Supergirl notamment. Il jouera un certain Cleveland Booker, alias Book, intelligent, débrouillard, avec du charisme et quelqu'un qui a tendance à s'attirer des ennuis. Et l'équipage n'est pas arrivé à Terra Zelium comme c'était prévu au départ, et Michael Burnham est séparé des autres. Et voilà, rien ne se passe comme prévu pour eux.
Moi, j'ai lu quelque chose d'amusant. Bon, il y a toujours les mêmes déclarations sur le canon, respect, l'esprit. Enfin bref, ça fait 3 ans qu'on a ça. Chacun pourra juger par rapport aux déclarations précédentes si on nous a menti ou si on a bien respecté ce qui avait été dit. Mais juste Discovery, en fait, réussi. J'avais pas jamais pas vu ça. Je l'ai lu dernièrement, à être à la fois un préquel et à la fois une suite. C'est-à-dire qu'ils ont commencé pour pouvoir être le préquel de la série originale et ils finissent comme étant la suite très éloignée de Voyager et
Ouais, alors en
TNG.
fait, pour si, enfin, alors c'est toujours facile de le dire avec le recul, hein. Mais je pense que si, Discovery avait commencé par là, elle aurait été mieux accueillie par les fans. C'est-à-dire, je m'explique, qu'il n'y aurait pas eu la saison 1 avec la guerre avec les Klingons et l'univers miroir, enfin tout ce qui est un peu lourd. Directement, que sa saison 2 soit sa saison 1, finalement, avec bien sûr les ajustements narratifs que ça impose, c'est-à-dire que Georgiou ne soit pas sa version miroir, hein, que finalement Georgiou reste la capitaine, pourquoi pas, et qu'on aurait peu ou prou eu la même histoire, et qu'à la fin de la saison 1, pouf, ils partent dans le futur, bah, je pense que la série aurait été mieux accueillie. Moi, en tout cas, c'est mon sentiment.
Moi, j'ai des grandes appréhensions que cette équipe-là puisse toucher au futur de Star Trek. Et tu l'as écrit sur le Team Frontier. Je pense que tu as absolument raison, Guigui, qu'on va avoir une histoire où Michael Burnham, avec ses petits bras musclés, va nous remonter la Fédération qui sera totalement vrillée 1000 ans dans le futur.
C'est vrai que c'est dommage que ce soit fait avec cette équipe-là dans cette série-là, parce qu'on sait très bien que ça risque de ne pas être très subtil, mais c'est vrai que c'est une thématique qui est intéressante d'imaginer le post-fédération, d'imaginer qu'effectivement le système de la fédération a été tellement tentaculaire que finalement il s'est écroulé, il s'est effondré. Donc c'est bien parce que ça pourrait rappeler des thématiques contemporaines. Mais du coup, ouais, on n'a pas trop confiance en ces scénaristes de jouer avec cette thématique qui est quand même assez riche, assez foisonnante. Et voilà, on sait très bien qu'on ne peut pas trop leur faire confiance pour être subtil. Donc on verra bien. J'espère me tromper.
Pareil, ils n'ont qu'à nous donner tort et on sera les premiers avis. Ensuite, des informations sur les short tracks, Minos, il me semble aussi, non?
Oui, on a donc su qu'il y en aurait 6, on a eu leurs titres. Trois d'entre eux seront centrés sur Discovery ou plutôt sur l'Enterprise, puisqu'il y en aura un qui nous présentera l'arrivée de Spock pour la première fois à bord. Un autre où lui et Number One seront enfermés dans un ascenseur tombé en panne. Et le troisième avec Anson Mount en héros. avec une invasion de tribules. Pour les trois autres short treks, deux seront des dessins animés et le dernier sera lié à la série Picard, puisque il présentera le contexte dans lequel évolue la galaxie jusqu'à l'arrivée de la série.
Je suis chaud hein, quand même pour les short treks. Je l'ai déjà dit dans un autre podcast, mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, les éléments réussis de la saison 2 de Discovery, à savoir le casting de l'Enterprise, bah, le fait de les resservir dans des short treks, en attendant peut-être pour tester, voir s'il n'y a pas moyen de faire une série, c'est une série bien à eux. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose, parce que je suis vraiment ravi de les revoir. Et ce qui m'amuse, moi, c'est d'avoir effectivement, par exemple, chez nous, donc la Discovery qui est sur Netflix, donc les short treks seront diffusés sur Netflix, et donc il y aura un short trek qui fera la promotion de la série Picard qui, elle, sera diffusée chez Amazon en France. Donc on aura donc un short trek diffusé sur Netflix pour faire la promo d'Amazon. Donc, je trouve ça assez amusant.
Oui, c'est amusant. Après, celui dans le où ils sont coincés dans le Turbolift, c'est écrit par Michael Chabon qui est le showrunner de la série Picard. Moi, j'attends de voir un peu pour ce qu'il a, comment est-ce qu'il traite l'univers Star Trek. Mais après, moi, je trouve que c'est la stratégie du coucou, c'est-à-dire que ces personnages qui sont repris et qui ont été moins maltraités que, ou plus réussis que les autres, ça dépend des sensibilités, dans la série Discovery, ben, on prend ce qui a été fait par des autres en essayant de l'actualiser un petit peu avec des moyens modernes de production. Mais pour moi, ce n'est pas l'innovation, ce n'est pas faire quelque chose de nouveau, c'est reprendre les acquis faits par des gens qui avaient du talent pour essayer d'exister. Donc moi, je suis extrêmement circonspect sur ces short treks, et pas pour les acteurs que je trouve vraiment très bons, pas pour le visuel qui est bien réussi, mais pour la stratégie globale.
En même temps, les short treks de la saison précédente, ils n'étaient pas excellentissimes non plus, donc tu vois, je veux dire... Moi, je pense que le mieux, c'est de ne pas se prendre la tête, qu'ils fassent des petites pastilles qui soient humoristiques, peut-être, et qui ne servent pas l'intrigue de quoi que ce soit d'autre, et qui se suffisent à elles-mêmes. Un peu comme celle sur Mud, finalement, la saison précédente. Hein, finalement, elle servait à que dalle, si ce n'est être pour elle-même quelque chose, une petite parenthèse amusante. Donc, moi, je pense que c'est bien qu'ils restent là-dessus. Donc, on verra bien.
Après, le problème, c'est qu'avec Mud, ils arrivent à maltraiter la chronologie, l'univers. Mais
bon, ça, ils risquent bien de le faire encore de toute façon. On leur fait confiance là-dessus.
Voilà. Voilà. Et donc, Minos, toi, qu'est-ce que tu en attends ?
Écoute, les trois centrés sur Discovery ou plutôt sur Enterprise, je pense que ça va être fun et anecdotique et que c'est le principe. Le Picard va être très intéressant, ouais. Je pense, et les deux autres, j'en attends pas grand-chose, à vrai dire. Et juste pour revenir sur un truc que tu disais, Guigui, sur le fait qu'il y aurait peut-être éventuellement une série avec Pike et Spock, c'est ce que Kurtzman a laissé sous-entendre aussi à San Diego. Donc, il est fort possible que ça se fasse.
Ouais, je pense que oui, qu'ils vont tester les short treks, voir la réaction des gens par rapport à ça, voir s'ils sont sur la bonne voie ou pas, et puis y aller, quoi. Je pense que oui, puis tout à fait, il y a moyen, tout en sachant que il me semble que Picard est prévu pour être une série qui durera que 3 saisons. Il y a déjà eu des rumeurs qui diraient que Discovery est prévu pour durer 3 ou 4 saisons, peut-être pas plus. Donc voilà, qu'ils puissent enchaîner ensuite sur une série Enterprise avec Pike et Spock, moi ça me choquerait pas du tout. Après, effectivement, est-ce que c'est vraiment une bonne chose ou pas? Alors là, il y a le côté fanboy qui dit oui, bien sûr, on a envie de les voir parce que les acteurs sont cool, ils ont prouvé qu'ils étaient bien et tout. Mais d'un autre côté, c'est vrai que c'est pas du tout du neuf et que c'est un peu emmerdant de rester tourné toujours autour des mêmes personnages. Mais bon, en même temps, voilà, si c'est bon, si c'est bien, s'il n'y a que comme ça qu'on peut avoir quelque chose de correct avec cette équipe-là, moi je dis pourquoi pas.
Et sinon, c'est bien compté, Guigui, parce qu'on va parler, je crois, Minos, de Lower Decks.
Exactement, on a eu droit au premier visuel lors de la convention de San Diego, donc les visuels avec les 4 personnages principaux du vaisseau, qui est l'USS Cheritos, mais ce ne sont pas eux les héros, les 4 héros font partie des Lower Decks, donc des ponts inférieurs, et au casting on retrouve notamment Jack Quaid, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui jouera l'enseigne de Boimler, et également parmi l'équipage le commandeur Ransom sera joué par Jerry O'Connell, qui a été rendu célèbre pour avoir incarné Queen Mallory dans Sliders, et qui, à la vie, est marié depuis plus de 10 ans avec Rebecca Romijn, alias Number One dans Discovery.
Tu en as pensé quoi, toi, du design, Guigui, de cette série ?
Moi, j'ai trouvé que c'était pas mal. Bon, après, c'était attendu du fait que c'est quelqu'un de l'équipe de Rick et Morty, de la série Rick et Morty, de Adult Swim, qui est à la barre. Donc, on est complètement de ce qu'on pouvait attendre de sa part, hein, c'est-à-dire quelque chose d'assez proche des dessins animés pour adultes, c'est-à-dire une ligne claire avec des personnages vraiment très, très, très cartoon, mais dont on imagine que les thématiques ne seront pas forcément pour les enfants. Donc, moi, ça me va plutôt bien. Moi, j'étais plutôt attentif aux uniformes, sachant que la série, c'est censé se dérouler, si j'ai bien compris, 2 ans après Nemesis. Donc, ça veut dire qu'on a encore une nouvelle batterie d'uniformes, c'est-à-dire que vraiment, Starfleet, tous les 10 ans, ils changent tous leurs uniformes. Donc, ils sont vraiment très, très fashion victimes, quoi.
Ah, mais ça, depuis le début de Star Trek, il y a 50 ans, hein.
Mais là, quand même, ça fait quand même beaucoup. Hein. Ça fait quand même beaucoup. À chaque série, maintenant, on a des uniformes différents. Donc, bon, pourquoi pas. Hein. De toute façon, c'est pas du tout grave. Les personnages, le chara-design me va bien. Donc, maintenant, il faut les voir en mouvement. Parce qu'en fait, le chara-design, c'est une chose, mais c'est surtout l'animation, la qualité de l'animation qui, à mon avis, fera la différence. Mais bon, j'ai pas trop d'inquiétude là-dessus non plus, parce que justement, ce type de chara-design permet de faire des bonnes animations à pas cher. Puisque forcément les traits sont assez simplistes, donc du coup ça permet justement de faire de beaux mouvements et de belles séquences. Donc je pense qu'on sera bien. Je suis plutôt très 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 curieux de découvrir cette série.
Sachant qu'il a été dit que c'était l'occasion de rire non pas de Star Trek mais avec Star Trek et que c'est une série pour les fans de Star Trek.
Ben, un peu,
mais pas que. Hein.
J'imagine très bien quelque chose un peu à la Futurama. Mais qui se passerait dans l'univers de Star Trek. Donc, sachant que déjà dans Futurama, par exemple, ou même dans Rick et Morty, hein, avec toutes les références qui sont faites à ce type de cinéma ou de série télé, que sont des monuments comme Star Trek, on sent l'amour des créateurs pour Star Trek, par exemple, et d'autres œuvres. Donc, on imagine sans mal, effectivement, qu'on pourra rire avec Star Trek et non pas de Star Trek, tout à fait.
Mais je crois qu'on a clôturé toutes les informations officielles sur Star Trek, c'est ça, Minos ?
Alors, juste un petit truc, je voulais dire, Rick et Morty, oui, moi j'avais regardé quelques images, j'ai pas vu du tout le dessin animé, je trouvais les dessins assez moches, du coup, je trouve que, ouais, ceux de Lower Decks sont bien plus sympas. Et par ailleurs, sur cette série, il y a un consultant qui a été nommé, qui est David Mack, qui est un auteur notamment de romans Star Trek. Il est juste consultant, apparemment il le sera aussi sur la future série jeunesse, et il est là pour s'assurer que les séries collent le plus possible à l'esprit Trek. Alors, est-ce qu'il y a eu un problème avec ce qui a été montré jusqu'ici, ou est-ce que c'est de l'anticipation ? Je ne sais pas.
Moi, je pense qu'on est dans le cadre classique de genre de série, hein, parce que même dans Discovery, il y a ça, simplement, ils ne les ont pas écoutés, quoi, les gars. C'est tout.
Je suis bien d'accord. Donc, trinquons, et on va ouvrir la page Picard.
Engage. Un petit château Picard, on s'ouvre une bouteille, allez.
Donc, enfin, nous avons eu notre premier trailer de cette série qui est assez attendu ou redouté, selon, encore une fois, les attentes de chacun. Donc, une petite description rapide du trailer. Dans ce trailer, nous sommes en 2399 et nous voyons Jean-Luc Picard tenter de trouver un équilibre dans une vie de vigneron. Certainement la reprise du domaine familial de La Barre, vu dans l'épisode de La Nouvelle Génération, Family.
Même sûr,
un équilibre qu'il ne semble pas trouver. Et arrive une mystérieuse jeune femme, et l'arrivée de cette jeune femme et du mystère qu'elle charrie le pousse à sortir de sa retraite afin de dissiper tout cette aura, toutes ces manigances qui semblent venir avec elle. D'après les informations qu'on a pu extraire du trailer, on voit que ce mystère mêlerait les Borg et les Romuliens. Cette nouvelle aventure, oui, mais une nouvelle aventure avec certains visages connus, parce que le trailer nous montre des personnages qui étaient assez appréciés par les fans. Donc, parmi les visages familiers, nous avons donc celui de Data, dont Picard ne semble pas avoir fait le deuil de sa mort, et celui de Seven of Nine, qui vient lui rendre visite. On a aussi l'occasion dans ce trailer de voir les personnages principaux de cette nouvelle série, mais on va y revenir. À noter quand même, et ça a été assez souligné, que on voit à travers ce trailer une volonté de coller à l'esthétique qui était celle de la nouvelle génération, au niveau des costumes, de l'architecture intérieure, voilà. Donc je sais que ça rassurait beaucoup de fans, cette volonté de continuité plutôt que de rupture. Mais d'abord, je voudrais savoir quelle a été votre réaction à l'un et à l'autre devant ce trailer. Minos ?
Moi, je suis emballé. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu. Ça a l'air sympa. Il y a du Romulien, il y a du Borg, il y a de l'aventure. Ça me plaît. J'ai hâte de voir ça.
Et toi, Guigui ?
Moi, j'étais ultra hypé de ouf. J'ai pleuré de joie. Ouais, j'exagère, j'en fais des caisses, mais c'est vrai que ça m'a fait vraiment plaisir, ça m'a vraiment rassuré. Alors, j'étais déjà un petit peu rassuré par le teaser, hein, j'avoue, mais là, j'étais carrément rassuré parce que, effectivement, j'ai l'impression qu'on va retrouver le Picard qu'on connaît, même si, effectivement, il y a une ellipse de 20 ans qui va justifier n'importe quel virage qu'il aurait pu prendre au cours de sa vie. On retrouve effectivement le vignoble des Picards, hein, c'est confirmé, puisque ils ont même vendu des bouteilles à la Comic-Con, c'est marqué Château Picard, appellation d'origine contrôlée, la barre, donc en Dordogne. Ce qui est assez amusant, parce qu'il y a un vrai Château Picard, mais qui lui est en Aquitaine, donc ça c'est confirmé. Et oui, donc moi j'ai vraiment l'impression qu'on retrouve le Picard qu'on connaît, qu'effectivement en termes de décors, d'assets, de choses comme ça, on est vraiment dans une continuité de Némésis, par exemple, purement et simplement. D'ailleurs, voilà, on évoque Némésis, hein, carrément. Donc c'est quand même super intéressant. Revoir Jerry Ryan dans le rôle de Seven of Nine, donc c'est super cool, parce que moi justement, c'était une de mes attentes de revoir un personnage d'une autre série que celle de la Next Gen, qui soit DS9 ou Voyager. Donc là, c'est une case de cocher pour moi, quoi.
D'accord. On va pouvoir passer sur les attentes. Je vais juste dire que moi, par exemple, à votre opposé, j'ai pas du tout été hypé. Moi, je reste extrêmement prudent, tellement ce qui m'a été montré me semble une histoire déjà très convenue, avec bien des soucis d'écriture que l'on connaît dans cette équipe sur les mystery box qui font pchit. Et ensuite, le fait que, je l'ai souvent dit, mais Picard est une création collective dans laquelle il y avait Gene Roddenberry, Rick Berman, Michael Piller et, bien entendu, Patrick Stewart. Et le fait que, contrairement à beaucoup de revival, on pourrait penser, tu nous avais parlé de Twin Peaks, par exemple, mais je pourrais penser aussi à Ash versus Evil Dead, le fait qu'il n'y ait pas les créateurs à l'origine qui soient là, moi, c'est plutôt quelque chose qui me fait peur. Et j'ai moins confiance en Patrick Stewart que dans ses créateurs et auteurs qui sont pour beaucoup maintenant dans The Orville ou dans Outlander pour Ronald Emour, d'être capable de nous ramener cette essence du personnage de Picard.
Alors ouais. j'ai le contre-exemple parfait pour ça, c'est X-Files. Tu as quand même les créateurs d'origine, dont surtout le créateur Chris Carter, et qui fait que quand même ce revival a été assez raté. Donc voilà, donc c'est pas un gage de qualité à tout prix d'avoir les créateurs d'origine qui soient à la barre. C'est le cas de le dire.
Il faut dire que Chris Carter a beaucoup moins.
Par contre, là où je te rejoins un peu dans tes craintes, c'est qu'effectivement Patrick Stewart avait mis par exemple beaucoup son nez dans le scénario de Star Trek Nemesis, si je me souviens bien. Oui. Et bon, effectivement, le film c'était pas le plus réussi de tous. Donc oui, effectivement, on peut avoir cette crainte d'avoir le personnage phagocyté un peu par l'ego de l'acteur et qui obligerait un peu les scénaristes à se mettre à son service, ce qui desservirait donc bien sûr le personnage et l'histoire qui en découle. Donc effectivement, c'est une crainte légitime. Moi, pour ma part, je vais décider de leur faire confiance et puis on verra, on jugera sur pièce, quoi.
Je pense qu'on est d'accord, tu es plutôt la version optimiste, et moi je suis plutôt la version pessimiste, et de toute façon on jugera sur pièce. Mais il faudrait savoir, pour pouvoir juger, quelles sont nos attentes. Donc tu as commencé à nous dire, toi Guigui, que avoir des visages familiers, c'était justement une de tes attentes, donc c'est pour ça que ce trailer t'a comblé. Est-ce que tu avais d'autres attentes ? Est-ce que tu as d'autres attentes quant à cette série ?
Oui, alors tout à fait. Déjà, en termes de production, C'est, on est, parce que bon, moi, l'image, ça, forcément, c'est quand même quelque chose d'assez important. J'ai quand même l'impression que le niveau de production est assez élevé, un peu comme Discovery, mais avec peut-être moins d'effets kitsch et tape à l'œil. Donc, j'imagine que la caméra, elle saura se tenir correctement, qu'il n'y aura pas de l'action pour de l'action. Donc, j'imagine quelque chose de quand même plus posé. En tout cas, les plans choisis, la manière dont c'est monté me laisse penser, me laisse imaginer. En tout cas, j'espère que ce sera le cas. J'espère aussi de beaux dialogues, un bon casting. Alors, connaissant certains des acteurs qui sont déjà présents, je sais que les acteurs sont bons. Donc, on verra très bien comment ça se passe. Moi, j'ai checké un peu la filmographie, en tout cas le CV de Michael Chambon, je crois qu'il s'appelle le showrunner. Donc,
Michael Chabon,
voilà. Donc, il a l'air, ça n'a pas l'air d'être une buse, hein, donc on verra bien. On verra bien ce qu'il vaut sur la longueur, en tout cas. Et puis, le fait de faire revenir Data, c'est sûr, hein, ça parle à la fibre du fanboy, même si, pour ma part, j'imagine pas que ce soit le personnage en lui-même qui revienne, mais on une incarnation.
On va pouvoir en parler après dans les théories.
Marche. Et moi là-dessus je suis assez hypé parce que, alors je récapitule, effectivement le fait de revoir des personnages familiers, même si ce ne sont pas des personnages qui seront principaux, donc c'est-à-dire on les verra, ils auront leur importance, mais ils ne font pas partie vraiment du cast, de la garde rapprochée du casting autour de Picard, donc ça je trouve que c'est une bonne chose. Les moyens qui sont mis qui sont mis vraiment à la disposition de l'histoire, et puis bien sûr que ça raccroche les wagons avec Nemesis, avec tout ce qui a précédé, quoi, et que ça raccroche aussi le wagon avec Star Trek 2009 de J.J. Abrams, car même si c'est pas un film que j'aime beaucoup, c'est quand même bien d'avoir les choses qui sont traitées, les événements qui nous sont narrés dans Star Trek 2009, qui nous soient traités de la manière du côté de l'univers Prime. Je trouve que c'est plutôt intéressant.
Oui, on va y revenir parce que j'ai quelques infos là-dessus. Et toi, Minos, quelles sont tes attentes ?
Moi, je suis content de voir une série qui se déroule dans le futur. Comme ça, on va pouvoir reprendre le fil de l'histoire Star Trek. Donc, je trouve que le trailer est assez prometteur. Sur ces 20 dernières années, il y a l'air de s'en être passé des choses. Donc, voilà. Et pareil, je suis content de voir des membres des anciens castings revenir parce que il n'y a pas que Picard dans l'univers. Et si on le fait revenir, il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas revenir les autres. Et j'ai hâte de voir Riker et Troy, notamment. Est-ce qu'ils sont toujours sur l'USS Titan ? Est-ce qu'ils sont à l'amirauté ? Voilà, il y a plein de choses intéressantes à venir, je pense.
Moi, j'espère qu'ils auront carrément repris l'Enterprise tant qu'on y est.
On va en parler aussi.
Mais... Lequel ?
J'ai quelques infos là-dessus aussi. Quant à moi, j'attends tout simplement que, comme moi, ce qui m'a fait le personnage de Picard, c'est le respect de certains principes dans l'intelligence. Et que Picard était non pas un être exceptionnel, mais la production d'une époque progressiste. Donc, du moment que Picard continue à montrer en quoi Starfleet est l'incarnation d'une utopie et d'une manière réaliste, je serai comblé. J'ai des attentes minimum vis-à-vis de ça, c'est que Starfleet ne soit pas maltraité comme beaucoup trop de fois par cette équipe de production. L'histoire de Picard ne soit pas centrée que autour de son personnage façon Michael Burnham, parce que même si Patrick Stewart est un immense acteur, les histoires qui ne racontent que leur personnage dans Star Trek m'ont toujours ennuyé. Je pense que Star Trek, c'est plus que les personnages, c'est les personnages au service d'un univers que l'on voit se construire sous nos yeux. Donc, à minimum, si on a une bonne histoire, assez bien écrite, qui respecte l'univers, je serai content. Je laisserai sortir le fanboy qui sera peut-être devant une histoire dispensable, qui casse pas trois pattes à un canard, mais qui m'aura fait plaisir de retrouver ces personnages pour une nouvelle aventure. Si on commence à attaquer les structures de l'univers, à attaquer beaucoup de choses qui pour moi m'ont plu, faire des interprétations quant au personnage de Picard, par rapport à Starfleet, par rapport à beaucoup de choses, je sens que je vais devenir assez en colère.
Déjà, il y a quand même quelque chose qui va te décevoir du fait, rien que par le titre, c'est qu'évidemment, tout va tourner autour de Picard. La série s'appelle quand même Star Trek Picard, donc c'est évident que pour ce coup-là, ça serait justifié. À mon avis, ça ne sera pas complètement le cas, dans le sens où quand même, je pense que les nouveaux personnages, les nouvelles recrues, auront leur importance. Et d'ailleurs, si tu regardes bien dans le trailer, la chaise du capitaine n'est pas occupée par Picard, hein, elle n'est qu'un passager, hein, peut-être même quelqu'un qui donne des conseils, mais c'est pas lui qui sera forcément à la manœuvre quand il y aura de l'action. Donc je
Tu veux
trouve
dire que
que
c'est
c'est...
pas lui qui dira engage?
Ouais, ok, c'est lui qui dit engage, mais ça reste, ce sera quand même pas le capitaine du vaisseau. Donc voilà. Moi, je trouve que c'est déjà pas mal. Je pense que son rôle, il sera ailleurs. Ça sera vraiment un vieux sage qui va gérer une nouvelle génération. C'est le cas de le dire.
Là, c'est là où je suis plus pessimiste que toi. Mais comment dire, on jugera sur pièce.
On verra bien. Ouais.
Donc, si vous voulez, les amis, on va peut-être présenter les nouveaux personnages et ensuite. Il y a plein d'infos complémentaires parce que le trailer a été suivi d'un panel. Il a été aussi associé à une exposition qui était First Duty, où il y avait beaucoup d'objets de la série qui étaient exposés. Puis on a eu des interviews de Jonathan Frakes, qui a réalisé deux épisodes de la série. Voilà. Donc je vais essayer de vous décrire un petit peu tout ça. Et après, on pourra en discuter. Donc déjà dans les nouveaux persos, on a donc la jeune femme dont j'ai parlé, celle qui amène tout ce mystère et qui remet le personnage de Picard en mouvement, qui s'appelle Dage. On a le docteur Agnès Jurati, qui elle a quelque chose d'assez intrigant parce que c'est elle qui possède en fait les diverses pièces de Bifor. Brent Spiner a confirmé que c'était bien Bifor dans le trailer. Ensuite, on a Cristobal Chris Rios, ou Rios, qui est le capitaine du vaisseau sur lequel qui vont être empruntés par les protagonistes. D'ailleurs, c'est lui dont tu parles qui est dans la chaise du capitaine. On a Raffi Musiker, qui a l'air d'être une personne martiale, qui semble liée avec Picard par un passé commun. Et après, on a Elnor, un guerrier. Romulien, qui semble attaché à Picard et loyal à lui, un peu comme un garde du corps personnel. Donc voilà pour l'équipage des personnages principaux de la nouvelle série Picard. Donc est-ce que vous voulez quelques infos sur le personnage de Jean-Luc Picard?
Allez, bien sûr.
Donc on a appris par l'exposition First Duty que Jean-Luc Picard a atteint le grade d'amiral.
Ça, on le savait déjà, parce que dans le trailer, il me semble qu'il l'évoque. Hein.
Dans le
Et...
teaser, dans le teaser.
Dans le
Il
teaser,
a
ouais, dans le
pris sa
teaser.
retraite en 2386.
Donc, c'est-à-dire juste avant l'explosion de Romulus.
Justement, c'est l'année avant l'explosion de Romulus.
Ouais, un an
Aucune
avant.
confirmation là-dessus, mais sur la date, justement, ça tendrait à rendre ce que on a vu dans Star Trek 2009, enfin entendu dans Star Trek 2009 et aussi vu dans les comics Countdown,
Countdown, ouais.
qui donc serait de nouveau. On va dire de nouveau canonisé. Ça, voilà. On peut savoir aussi que il a commandé l'Enterprise E jusqu'en 2381. Et c'est en 2381 qu'il a donc été promu amiral avec une mission spéciale. Voilà. Donc 2381 sa promotion, 2386 sa retraite. On sait aussi qu'il y a des objets, enfin, des effets personnels et quelques mémentos de Jean-Luc Picard dans le musée de Starfleet qui est à San Diego. À San Diego, c'est nous qui sommes à San Diego, qui sont à San Francisco.
Une futine, par exemple,
On ne sait pas exactement,
entre autres,
ils
entre
étaient
autres.
exposés, certains costumes et autres. On sait aussi qu'il a mis autant d'applications en tant que exploitant de l'expo, enfin de son vignoble, qu'il a mis dans sa carrière de commandement à Starfleet.
En même temps, il a l'air de commander avec des machines.
Oui, et un chien. Et d'ailleurs, c'est assez amusant parce que dans le trailer, on voit qu'il se rend dans un bâtiment de Starfleet et il se rend dans ce bâtiment avec un badge visiteur. Moi, je l'avais pas vu en voyant le.
Normal pour quelqu'un qui est à la retraite.
Oui. Mais voilà, ça me fait bizarre d'imaginer quelqu'un, une légende comme un ancien amiral des plus décorés, qui revient avec un simple badge visiteur. Ça fait bizarre. Mais je pense que c'est fait un petit peu exprès pour justement montrer
Le temps qui passe.
le temps qui passe, la rupture avec son ancienne vie.
Le nouveau statut.
Exactement. Ensuite, dans ce trailer, il ne vous a pas échappé qu'on voyait un cube Borg.
Tout à fait.
Et avant, on voit aussi une flotte de vaisseaux romuliens. Et on a aussi une image extrêmement fugace dans laquelle on voit cette même flotte attaquer un cube Borg. Alors tout ça est mis d'une manière très décousue dans le trailer, mais on peut voir donc que les Romuliens ont attaqué un cube Borg. Et on peut voir aussi un labo romulien dans lequel un pauvre gars qui a été borgisé est analysé. Et on a même aussi un ancien Borg qui est carrément disséqué par les gens de ce même labo. Donc, il y aurait, dans ce que montre le trailer, une connexion assez forte entre les Borg et les Romuliens. On voit aussi une base dans laquelle il semble y avoir des prisonniers. D'ailleurs, Dahl est prisonnier là-bas. Et sur cette base, il y a écrit qu'il y a
5000 jours. Ouais.
5843 jours, pour être exact, à peu près 16 ans, sans assimilation.
Ouais, c'est ça.
Donc là encore, on voit que les Romuliens sont en train de chercher quelque chose avec les Borg, ou du moins ont vraiment...
Ça me rappelle le roman d'William Shatner, où il avait fait revenir son personnage après Generations, où tu as déjà les Romulans et les Borg qui travaillaient ensemble, sauf que ici, là, dans la série Picard, moi je pense que c'est plutôt les Romulans qui essayent de tirer profit, essayent de manipuler, de contrôler la technologie Borg d'après les restes qu'ils ont pu récupérer pour retrouver la place qui était la leur avant l'explosion de leur planète. Quoi.
On peut voir aussi que dans le trailer, on a deux personnages différents qui sont des Romuliens qui discutent avec Picard et que donc ça accrédite encore plus la thèse de Picard qui aurait essayé au nom de la Fédération et donc avec Spock d'aider pour prévenir la destruction de Romulus. Et que les origines de cette volonté de Picard de travailler à mettre des ponts entre la Fédération et l'Empire Romulien viendraient aussi de Némésis, où il s'était allié avec les Romuliens contre Shinzon.
Exactement. Ouais, ouais.
Donc là, l'une de tes attentes, toi, Guigui, qui était d'avoir un lien avec Némésis,
voilà, Star Trek 2009. Et même semble... par rapport, là, on va loin, parce que finalement, on peut dire qu'une des racines, c'est le double épisode Unification de la saison 3 de la Next G. On peut dire qu'une partie, c'est First Contact, une partie, c'est Nemesis, une partie, c'est le film de J.J. Abrams. Donc, ouais, moi, je trouve que c'est. Et puis, même de Voyager, hein, forcément, il y aurait une part de Voyager là-dedans. Donc, ouais, j'aime bien ce côté. On n'a pas oublié ce qui s'est passé précédemment. On va s'en servir pour créer le nouveau background. Et ça, je trouve que c'est plutôt malin.
Alors, tu parlais de Voyager, justement. Donc, c'est le personnage de Seven of Nine. Et Seven of Nine n'avait jamais eu de scène avec le personnage de Picard. Ils avaient voulu le mettre, je ne sais plus si dans Nemesis ou bien dans Insurrection, mais ça avait été finalement abandonné comme idée. Par contre, beaucoup des romans de l'univers étendu avaient mis Picard et Seven of Nine ensemble, ce qui est d'une logique absolue, sachant que sont anciens membres du collectif Borg.
Tout à fait. C'est clair qu'il y a une connexion entre les deux qui est totalement, enfin qui coule de source, quoi.
Donc là, on voit une certaine proximité entre les deux. Ils semblent discuter dans le château Labarre, mais il y a aussi un plan dans lequel on voit que Seven of Nine est à bord du vaisseau du capitaine dont on a parlé précédemment.
Elle tourne la tête.
Donc ça veut dire que ça ne serait pas juste une scène dans laquelle ils discutent et puis qu'elle repart, mais qu'elle pourrait faire partie, sais pas combien de temps.
Complètement, mais c'est comme le personnage de Data. Hein. Le fait que sur le panel à San Diego, quand ils ont présenté les acteurs, bah, ils aient fait venir Brent Spiner et Jerry Ryan les faire monter sur scène, ça montre qu'ils ne sont pas là que pour faire un petit caméo. À l'inverse de Riker et Troy qui n'ont été qu'annoncés, qui à mon avis, eux, n'apparaîtront que pour un petit caméo.
Oui, alors justement, à propos de cette scène, on voit Picard en référence à la dernière scène de The Next Generation, la nouvelle génération, où il jouait aux cartes avec son équipage. On pense que, quand on regarde bien Data, on voit qu'il porte un uniforme de Starfleet.
Oui, elle est tout à fait un petit col jaune qu'il ne devrait plus porter, vu l'époque dans laquelle ça se trouve.
Et même au-delà, il appelle
Il appelle
capitaine. Capitaine, alors que, comme on vient de le dire, il a été promu amiral. Donc, est-ce que tout ceci n'est pas soit un flashback, soit plus précisément une scène de holodeck ?
Moi, je pense que oui, c'est ça. C'est soit effectivement, enfin, oui, c'est carrément une scène de l'Holodeck, hein, parce que de toute façon, dans Star Trek, ils faisaient déjà tout le temps ça. À chaque fois, donc, dans Star Trek, la Next Gen, on invoque des personnages, que ce soit Isaac Newton, que ce soit Albert Einstein. Souvent, Data faisait ça justement pour discuter, ou pour des choses comme ça. Même faire revenir une personne qui est décédée à travers l'Holodeck, on imagine que c'est une pratique qui peut être courante à cette époque-là dans Star Trek. Surtout qu'on peut très bien imaginer que dans un programme de l'Holodeck, il peut avoir une petite résonance, une petite réverbération de ce qu'était Data. Ça n'est pas du tout impossible, et ça serait même très logique que finalement Data joue un peu le rôle de la conscience, et que justement Picard, des fois, quand il a besoin de penser à haute voix, bah, il utilise ce programme de l'Holodeck.
Oui, ou bien on peut imaginer qu'à travers le holodeck, ils essayent de retrouver une partie de l'intelligence artificielle de Data.
Par exemple, tout
Beaucoup
à fait.
de pistes sont sur la table.
Bah,
Oui?
d'un autre côté, si Data l'appelle capitaine, s'il s'agit du vrai Data ressuscité, il ne l'a
Oui.
connu que capitaine.
Non, à
Oui.
partir du moment où il assimile les nouvelles informations de ce qui s'est passé depuis sa résurrection, je pense qu'il n'utiliserait pas le terme de capitaine. Je pense que Picard, là, il se met dans une petite séance nostalgique rétro.
Oui, je pense aussi.
Et d'ailleurs,
Mais.
le jeu de cartes n'est pas anodin, parce que souvent, bah, d'ailleurs, quand Data faisait ça dans l'Holodeck, quand il jouait aux cartes avec Newton, avec Stephen Hawking, voilà, avec Albert Einstein. Donc voilà, il y a vraiment un écho à ce genre de scène qu'il y avait dans la série.
Je pense aussi, mais à voir, parce que il a été dit que l'une des motivations de Picard était Data, ce qui est assez large pour tout sous-entendre. Mais là, j'aimerais ensuite, parce tu as parlé du caméo de Riker et de Troi, Jonathan Frakes, qui a donc été interrogé, qui a dit que la réalisation de Picard ne serait pas celle de Discovery. Alors, il a dit que dans Discovery, alors c'est bien qu'il l'assume, il dit que vraiment, ils ont voulu coller à la mise en scène de Abrams avec des lignes solaires.
C'est clair, ça se voit trop.
Voilà, je suis pas qu'il y ait eu cette idée, mais je pense pas que c'était l'idée du siècle. Hein.
Non, bah disons que
Effectivement.
ça serait bien si c'était maîtrisé, si c'était fait avec parcimonie et pas comme des gros bourrins comme ils ont fait, quoi.
Ben,
Comme bah,
il a dit
Jonathan
carrément
Frakes.
que le plateau avait été pensé justement pour en mettre partout. C'est-à-dire que clairement, ils ont mis des lumières dans
Mais
les axes de
bien
caméra.
sûr. Mais ça se voit complètement. Mais d'ailleurs, on remarque que les épisodes réalisés par Jonathan Frakes, bah justement, sont beaucoup plus sobres à ce niveau-là, et que cette esthétique-là fonctionne à partir du moment où elle n'est pas envahissante.
Donc il a dit qu'il allait réaliser des épisodes de manière
À deux, je crois, ouais.
plus posée, mais tout en disant que ça ne sera pas la même manière de faire que dans la nouvelle génération, oui, dans la nouvelle génération, parce qu'on ne peut plus filmer comme on
Bien
faisait à
sûr,
l'époque.
bien
Après, je
sûr.
veux dire aussi dire que les caméras sont plus légères, que enfin, il y a tellement de
Non, mais
choses qui ont progressé que
je
c'est
pense que
normal que.
ça se rapprochera plus des derniers films, bah, de Nemesis, ou des films que bah, tout simplement Frakes a réalisé lui-même.
Oui, tu as raison. Mais il a aussi parlé de Troi et de Riker. Il a dit qu'ils étaient toujours ensemble. C'est plutôt une
Ah,
bonne nouvelle.
quand même.
Mais il a dit qu'ils n'étaient plus dans quelque chose de militaire.
La retraite aussi, peut-être.
Je ne sais pas. C'est ce qu'ils ont dit parce que beaucoup de fans se sont demandé si le capitaine Picard a pris sa retraite. Et que Riker est toujours dans la boucle. Riker doit être un certain degré de commandement, lui aussi, peut-être même déjà amiral. Pourquoi est-ce que Picard n'est pas allé voir Riker? Donc ça voudrait simplement dire que le passage où l'on le voit avec une amirale inconnue à son bureau viendrait du fait que Riker n'est
Dans la
plus lui
boucle.
aussi dans Starfleet.
Bah, ce qui serait complètement logique finalement pour le personnage, bon, et qui servirait la série Picard, hein, du coup, hein, clairement, mais du coup qui serait quand même une fin logique pour le personnage, qui, bah, du coup, on imagine très bien qu'avec Troi, ils ont simplement fondé une famille et qu'ils vécurent heureux et eu beaucoup d'enfants, quoi. Donc le mieux pour ça, c'est effectivement, c'est de sortir de Starfleet. Après toutes les aventures qu'ils ont eues, je pense qu'ils peuvent, enfin, ils l'ont bien mérité.
Après, c'est aussi l'une des parts de l'utopie de permettre à des capitaines d'avoir des familles. Ce qu'on voyait avec DS9, par exemple.
Bah même oui, c'est clair, mais bon, je pense que voilà, tu vois, ils ont donné quand même, hein, donc au bout d'un moment, je pense que c'est bien d'arrêter aussi.
Je sais pas, moi je pense qu'on peut rester jusqu'à Starfleet, jusqu'à sa mort. Mais bon, là-dessus, moi je suis toujours beaucoup plus Kirk, tu sais.
Oui, non, mais c'est clair. Mais tu
Et
vois,
donc
par exemple.
maintenant, si on passe un peu aux théories, tu vois, des fans, pour donner à ceux qui nous écoutent de quoi se faire des nœuds au cerveau, on a évoqué Lore, le jumeau
Ouais,
maléfique
ça,
de
j'y crois
Data.
pas une seconde, ouais.
Mais parce que pour la simple raison que quand on fait l'équation Data plus. Parce qu'on nous a dit que Lou en français et Hugues en anglais, le Borg qui avait des déborgisés,
Five.
etc., il était lié à Lore. C'est-à-dire que Lore avait eu une
Ouais,
certaine.
c'est vrai, dans la fin de la saison 6 et le début de la 7, tout à fait, ouais.
Donc ça a été évoqué. Bon, moi comme toi, je n'y crois pas. Mais
Ouais, ça serait
voilà.
nul. Ouais.
On est obligé de soulever que c'est pas
Oui,
idiot comme.
c'est vrai que c'est pas con.
Voilà. L'autre, ça serait pour Dal, ce personnage qui amène autant de mystères. Alors certains disent que les Borg ont l'ADN de Picard, donc elle aurait pu être une progéniture de Picard.
Pourquoi pas, oui.
Et il y en a d'autres qui disent que dans First Contact, les Borg ont récupéré les schémas positroniques de Data.
C'est vrai, ils le disaient tout à fait.
Et que Dal pourrait peut-être un hybride Borg positronique. Et ça expliquerait pourquoi Picard veut absolument découvrir le mystère qui est autour d'elle, parce que ça lui permettrait peut-être de trouver la clé manquante pour ressusciter Data.
Toi, tu penses vraiment que sa motivation principale à Picard, ça serait de faire revenir Data?
Spinner a dit
Bon.
que Data faisait partie des motivations. Donc pour l'instant, on nous a
Oui, en faire
présenté.
motiver.
Les
Non,
enjeux me paraissent être beaucoup plus importants, moi.
ouais, je pense aussi. Et puis, effectivement, le fait que Data soit le point de départ, la motivation de Picard, mais c'est vrai. Aux événements de Némésis, c'est le sacrifice de Data, ce qui s'est passé justement, son alliance furtive avec les Romulans à ce moment-là. Qui est à mon avis, la base justement de ce qui a suivi pour lui, c'est-à-dire d'essayer de faire la paix avec les Romulans, tout simplement. Et qu'effectivement, si on part de ce point de vue-là, effectivement, le sacrifice de Data est le point de départ de tout ça. C'est comme ça que je
Après,
le prends, en tout cas.
on peut imaginer aussi que, à travers les Romuliens qui auraient capturé un cube Borg, ce qu'ils auraient voulu en faire et tout, peut-être qu'il trouvera, là encore, en allant aider le personnage de Dal, des réponses pour pouvoir réparer Data,
Très bien, il peut
objectif
très bien faire.
secondaire.
Ouais, ça, il peut très bien faire d'une pierre deux coups. Bon, s'il y avait ça, je t'avoue que je serais un peu déçu parce que pour moi, c'est soit Data est là d'entrée de jeu, vraiment ressuscité comme dans le comics Countdown, bon, même si c'est super facile, attendu, pas du tout original, bah, moi je dis ok, je préfère ça que de le faire revenir, que ce soit le sujet de la série par exemple. Moi, je préfère que soit effectivement Data soit déjà présent, ressuscité, soit tout simplement qu'il reste mort une bonne fois pour toutes. Et puis que Picard, bah voilà, il se promène dans l'holodeck, il le revoit comme ça, et c'est comme ça qu'on reverrait le personnage. Et que ça n'aille pas plus loin. Si Data revient à l'issue de la série Picard, j'avoue que je serais complètement déçu.
J'ai peur que tu le sois, mais bon, c'est mon côté pessimiste. Enfin voilà, voilà à peu près toutes les informations, théories. Bon, je dois en oublier pas mal, mais voilà à peu près ce qu'on pouvait dire sur le point Picard à partir des informations que l'on a eues. Sachant que le 2 août, si je ne me trompe pas, il y a la Star Trek Las Vegas et apparemment il y aura un nouveau panel
Cool.
sur la série Picard. Ou peut-être qu'on aura d'autres informations, tu vois, d'autres images
Moi, ce que
qui vont
j'attends
être
pour la saison
jetées.
2 de Picard, c'est qu'il fasse revenir Beverly Crusher. Je pense qu'il faut ça au minimum. Après, le reste des autres personnages, on peut ne pas les revoir. Mais au moins Crusher et peut-être Q, ce serait pas mal, mais je pense que ce serait un peu hors sujet, peut-être. Donc, ce serait peut-être pas une si bonne idée que ça. Mais bon, c'est le fanboy qui paye. Qu'est-ce
Tu
que
t'es
vous voulez?
trompé, tu voulais dire Wesley Crusher, pas Beverly.
Non, Beverly.
Voilà, moi, comme j'ai dit, on verra, on jugera sur pièce quant à la série. Enfin, voilà. Donc, comme j'ai dit, on a Rémi qui est actuellement en train de regarder le musée. Là, le soleil commence à se coucher. Mais c'est une bonne transition parce que tant qu'on a Guigui. Donc, Guigui,
Ouais.
parle-nous de ton crowdfunding.
Bah, il est terminé, il s'est très bien passé, merci beaucoup. Donc merci à tous, on a terminé à 106%. Donc là je termine la maquette qui va partir donc à l'imprimeur la semaine prochaine. Donc je rappelle ce dont il s'agit. Bertrand Cœurtorien en zone 57, donc c'est une histoire d'invasion extraterrestre dans la ville de Metz. Donc c'est une sorte de comics non pas à l'américaine mais à la Lorraine. Et donc ça sortira chez Weta en novembre dans toutes les bonnes librairies de France.
Novembre, la date est confirmée?
Ouais, alors le jour exact, je ne saurais pas le dire. Je pense que ce sera fin novembre ou début ou même milieu, je n'en sais rien en fait. Je vous redirai ça.
Non, bah avec joie. Donc, on ne peut que te féliciter, mais fais attention parce qu'avec Minos, Rémi et moi, tu as trois personnes qui attendent les dédicaces. Hein.
Je sais.
Bien entendu.
Ouais.
Donc, je sais pas, moi, je sais pas ce que je vais te demander comme dédicace. Moi, je pense que je vais te demander un Picard. Hein.
Ah bah aucun problème.
Moi, je ne sais pas, j'y réfléchirai.
Michael Burnham? Ok, pas de problème, je le
Non, ça c'est pour Rémi, ça.
ferai. Ouais, c'est
Donc
clair.
voilà.
Bah,
Donc,
merci à vous, les
si
gars.
vous attendez vos dédicaces, vous n'hésitez pas à le faire savoir à Guigui, qui
Allez
se
sur les
fera un
forums,
plaisir.
bien sûr.
Est-ce qu'il y a déjà, tiens, tant qu'à faire, Guigui, est-ce qu'il y a des dédicaces que tu refuses absolument de faire?
Des personnages de Lost? Non, rien. Vous pouvez tout
Non.
me demander.
Les personnages de Lost n'ont jamais existé.
D'accord.
Et si on te demandait, je sais pas moi, de nous faire J.J. Abrams?
Oui, pas de problème. Tu sais, j'ai assez d'imagination pour détourner une demande et pour justement en faire ce que je veux. Donc, ça serait J.J. Abrams, mais peut-être qu'il souffrirait, on ne sait pas.
Voilà. Donc, c'est un avertissement pour tous ceux qui avaient des idées un petit peu farfelues ou détournées. Hein. Faites attention parce que Guigui est capable de prendre votre demande et d'en faire quelque chose de très personnel.
Parfait.
Voilà. J'espère que cette nouvelle émission d'ActuTrek vous a plu et n'hésitez pas à revenir si jamais c'est le cas. Quant à nous, on va aller faire barbecue, brochette là avant que les forces de l'ordre nous mettent dehors. Voilà, et le retour de Rémi, de son porte-avions qui va nous conter toutes les choses merveilleuses qu'il a vues. Et encore bravo Guigui pour le panel sur,
Merci, merci.
voilà, sur Zone 57. Hein, et bravo pour l'adaptation ciné.
Ouais, on y croit. Hein.
En tout cas, ça nous a fait vraiment plaisir d'être avec ce point Picard. Et puis si jamais on en refait un juste avant la sortie, qu'il y a un nouveau trailer, on te rappelle.
On marche.
Voilà. Allez, ciao ciao tout le monde.
Salut.
Bonsoir à tous.
Hop là, motherfucker.